Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, c'est le troisième épisode de la session avec Marion et Guillaume, je suis Patrick Béja et Positron c'est l'émission où on vous recommande des trucs cool en 20 minutes, jeux vidéo, BD, musique, livres, séries, etc. etc. Je suis Patrick, je l'ai déjà dit, et donc nous sommes avec Marion et Guillaume, comment ça va les enfants? Marion d'abord.
Bah, toujours un plaisir de vous retrouver.
Et Guillaume, alors attention, on sait ce que tu dois faire. Allez, 3, 2, 1...
Ça va super bien.
Oh, mais quelle déception! Quelle déception, Guillaume!
La bon. Super pêche!
Voilà. Ok, très bien, voilà, c'est mieux. Bon, je suis content que vous soyez encore avec moi pour cette session, donc encore deux épisodes, celui-ci et le suivant. On ne va pas tarder plus et on va se lancer donc dans des recommandations super cool avec un jeu que je vais vous recommander. Et si vous écoutez une autre de mes émissions, je pense que vous en aurez déjà entendu parler, mais ça va me donner l'occasion d'expliquer pourquoi je pense que ce jeu est accessible à n'importe quel fan de jeux vidéo. Il s'agit bien évidemment d'Overwatch, qui est sorti il y a combien de temps ? Ça fait un mois et demi maintenant, au moment de la diffusion de cet épisode, quelque chose comme ça. Et c'est un jeu qui m'a vraiment marqué la fin de mon année dernière et le début de cette année. Parce que c'est un jeu qui m'a... Je pensais qu'il me plairait, je pensais pas qu'il me plairait autant. Et il a amené, en fait, à quelqu'un comme moi, un fun, un type de fun que je pensais oublier ou que je pensais inaccessible aujourd'hui. C'est le fun des jeux de tir à la première personne, les FPS, et les FPS compétitifs plus spécifiquement. C'est-à-dire que ce sont des jeux de tir à la première personne où on va jouer contre d'autres adversaires humains. Et moi, je pensais que ce type de jeu était plus vraiment pour moi parce que je n'étais plus assez, je sais pas, jeune ou obsédé ou énervé pour m'intéresser à un jeu où on ne jouait que contre des adversaires humains. Je me disais que ça pourrait me plaire un petit peu, mais pas à ce point. Et le truc, c'est que là où ce jeu fonctionne parfaitement bien, c'est que comme souvent chez Blizzard Entertainment, ils ont réussi à tirer l'essentiel de ce qui fait que ces jeux-là sont fun et à supprimer tout ce qui vient barrer le chemin à l'amusement du joueur, tout ce qui fait que le jeu est trop complexe ou trop difficile à prendre en main, et donc ils mettent en avant, ils exposent la partie fun de ces jeux-là d'une manière hyper simple à prendre en main. Et donc et en plus ils sont revenus à une mode pour les jeux de tir à la première personne qui est beaucoup plus arcade, qui est vraiment un jeu de tir rapide, pas du tout réaliste, pas du tout guerrier dans le sens où les jeux de tir qui ont le vent en poupe depuis une dizaine d'années, on va dire, sont des jeux très réalistes qui sont arrivés avec la Deuxième Guerre mondiale et il faut sauver le soldat Ryan qui a lancé une vague de jeux Deuxième Guerre mondiale qui a évolué à la guerre moderne et puis à la guerre post-moderne avec la série des Call of Duty. Et là, on revient à des couleurs, quelque chose de très coloré, d'acidulé, de très rapide, de très délirant, de style vraiment BD, super-héros, avec des personnages, vraiment des personnalités très attachantes, enfin... C'est vraiment des personnages très différents et très attachants. Et encore une fois, cet élément qui fait qu'il est différent des autres, ce jeu-là, parce que c'est hyper simple à prendre en main. Et dès qu'on met les mains sur le truc, on s'amuse tout de suite. Je crois que c'est assez rare dans les jeux vidéo qu'il y ait ces jeux où qui ne nécessitent pas de période d'apprivoisement, d'apprentissage pour tirer le fun du jeu. Et ça ne veut pas dire que le jeu est pas profond. Il y a énormément de profondeur au jeu, encore une fois, comme souvent chez Blizzard, mais c'est quand même des éléments de fun qui sont beaucoup plus accessibles que dans la plupart des autres jeux. Donc, sans partir dans les détails de ce qui fait le jeu, parce que c'est même pas le plus important, ce que je veux dire, ce que je veux que les gens retiennent de ma recommandation, c'est que vraiment, pour moi, l'attrait de ce jeu réside dans le fait qu'il propose le fun des FPS à tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui se disent « Ah mais oui, les FPS, c'est pas pour moi », eh ben, ils pourront quand même y trouver quelque chose. De la même manière que, c'est un peu la spécialité Blizzard, ils ont fait ça avec les MMORPG, avec World of Warcraft, avec les jeux de cartes, avec Hearthstone. Il y a plein de gens qui disaient « Bah les jeux de cartes, c'est Magic, c'est pas pour moi, c'est compliqué, machin ». Eh ben, Hearthstone a su faire ressortir le fun de ce type de jeu et le proposer à tout le monde. Eh ben là, ils font un petit peu la même chose avec les FPS. Et avec un style de FPS qui existait à l'époque de Doom, Quake, Unreal, etc. Des jeux très rapides, très, encore une fois, arcade. Donc voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, si ce n'est peut-être pour dire que l'un des gros attraits du truc, c'est les personnages, et ça, c'est vraiment une encre, un endroit auquel on va pouvoir s'accrocher pour découvrir le jeu, c'est trouver un personnage qui nous plaît, et on va pouvoir s'amuser avec ce personnage. C'est tellement mis en avant, les différents personnages, qu'on va toujours en avoir un qui va nous plaire. Donc, bref, c'est un jeu qui, moi, me plaît énormément, hein, j'en ai beaucoup parlé dans mes autres émissions, mais évidemment, je ne pouvais pas, je crois que ça sera mon jeu de l'année, je ne peux pas ne pas faire en parler au moins un moment dans Positron, donc c'est l'occasion. Si vous n'y avez pas encore joué, je vous recommande de l'essayer. Je dis vraiment que si vous êtes un fan de jeux vidéo, ça serait peut-être pour vous, donc je le recommande pour tout le monde. C'est compliqué parce que c'est un jeu payant, donc c'est minimum 40€ sur PC et 60 sur console. Donc c'est difficile de dire aux gens, de dire que c'est vraiment pour tout le monde, parce que c'est difficile de dire, bah même si vous n'aimez pas les jeux de tir à la première personne, allez-y et dépensez 40 ou 60€. J'irai pas jusque là, mais j'irai au moins allez l'essayer chez un ami qui l'a peut-être, et voyez si c'est pour vous, parce que si c'est pour vous, vous allez découvrir ce type de fun dont vous ne vous doutiez pas qu'il existait peut-être. Donc voilà, ça s'appelle Overwatch, et bien sûr, déclaration éthique, j'ai longtemps travaillé pour la société qui développe et édite ce jeu, Blizzard Entertainment, donc prenez ce que je dis quand même avec un petit grain de sel, mais je crois que le succès de ce jeu et l'appréciation que le public lui montre quand même prouve que c'est un sentiment assez universel.
Mais du coup, tu parles que... Tu précises qu'on doit avoir un personnage préféré. Tu en as un, toi, dans le jeu ?
Bah moi j'en ai plein. Je les aime tous. Je les aime tous. C'est ça. Mais c'est ça. Tu sais, c'est ça qui est incroyable avec Blizzard, c'est qu'ils réussissent à faire plein de personnages différents qui ont des styles complètement différents et qui ont des styles de jeu, non seulement des styles graphiques et un look différent, mais aussi un style de jeu complètement différent. Il y a des personnages avec lesquels on n'a jamais besoin de tirer sur quoi que ce soit. On n'a pas besoin de viser super bien et d'être hyper précis. Et pourtant, ils sont super fun à jouer. C'est un niveau de finition qui est incroyable. Je dirais que si je dois en choisir un quand même, peut-être Junkrat, Chacal en français, qui est une sorte de pyromane, explosifomane complètement fou, qui est très très drôle, qui est une sorte de Joker de Batman en fait, qui est pas tout à fait ça, mais une D'accord. sorte de Joker de Batman. Qui aime les explosions et qui est australien et à moitié fou et que je trouve très très drôle. Donc voilà, je dirais celui-là.
Ok.
Donc voilà pour Overwatch. Passons à la recommandation de Marion.
Alors moi, cette fois-ci, je vais vous parler de musique quand même. Je voulais vous parler d'un groupe, c'est Born Ruffians. C'est un groupe d'indie rock canadien qui a été formé, je crois, dans les années 2000, peut-être 2004, enfin aux alentours, et qui est donc mené par son leader qui s'appelle Luc Lalonde et qui a une voix vraiment remarquable. Donc indie rock, donc le principe, c'est que c'est de la musique très très... assez accessible, hein, c'est pas Nightwish.
Nightwish, hein, Nightwish, attention, Nightwish. c'est pas la sorcière de la nuit, c'est le vœu de la nuit.
Pourtant, il y a des chanteuses, hein, mais c'est Nightwish. Et donc voilà, je vous propose d'écouter un premier extrait vraiment pour vous donner un premier aperçu. Donc Patrick, si tu peux passer l'un des deux.
J'y vais, hop. C'est un peu bizarre.
Bah c'est un groupe d'indé, hein, donc c'est vrai que c'est... en plus, là, je vous ai passé le morceau avec un petit décrochage entre le couplet et le refrain. Mais voilà, il a une voix un peu particulière. Il y a les guitares qui ont un pincé assez particulier également. Donc ça, c'est un extrait qui s'appelle Don't Live Up. Enfin, la chanson s'appelle Don't Live Up et qui est donc extrait de leur dernier album qui s'appelle Rough et qui est sorti, je crois, en fin d'année dernière. L'album est assez accessible. Honnêtement, je vous conseille vraiment de commencer par celui-ci, car là, c'est vrai que vous avez entendu juste un extrait un petit peu particulier, mais les mélodies sont vraiment entêtantes. Ça prend ses racines dans la folk américaine. Ils sont canadiens, donc c'est assez, c'est assez marqué folk, avec beaucoup de guitare. Il a une voix très mélodieuse, vraiment caractéristique, et les chansons sont vraiment entêtantes, donc on a du mal à se sortir de la tête, et c'est dans le bon sens du terme. Je vous encourage vraiment à aller découvrir ce groupe qui était un véritable coup de cœur pour moi. Moi, je les ai connus avec leur album Birthmarks. D'ailleurs, je propose du coup d'écouter le second titre que je pense pas mal d'entre vous doivent connaître du coup.
Hop, on y va. Attention, la musique, le son. Mais c'est marrant, hein. c'est vraiment un truc, j'ai l'impression que ça va partir dans une certaine direction très classique, et en fait il y va pas. J'aime pas mal la pop indé, enfin le rock indé canadien. Il y a énormément de choses qui me parlent beaucoup, j'en parle souvent d'ailleurs dans cette émission, mais et là c'est vraiment, j'ai l'impression presque qu'il se retient de faire de la pop, quoi. C'est, il fait des trucs et puis il va pas là où tu crois qu'il va aller, non? C'est, je sais pas si
ben
ça.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce qu'alors il y a vraiment des moments où on retrouve le classicisme de la folk dans tout ce qu'on peut connaître et retrouver, mais avec toujours, comme tu dis, il va partir là où on l'attend pas, il va le réinterpréter, le manipuler, le tordre un petit peu pour en créer quelque chose de complètement nouveau et toujours toujours très agréable à l'oreille, pour nous faire découvrir de nouveaux sons avec des instruments qu'on n'a pas l'habitude forcément d'entendre, une voix qui sort aussi des voix classiques que l'on peut entendre tous les jours. Donc vraiment, pour tous ceux qui aiment bien ou même en général, parce que c'est quand même très accessible, surtout, voilà, encore une fois, l'album Rough, c'est celui que je vous conseille pour commencer à écouter ce groupe, où vous allez avoir un habile mélange de mélodies qui vont pas trop vous surprendre et qui vont, du coup, qui vont être faciles d'accès, mais ensuite qui vont partir lors des refrains, lors de certaines phrases, même les thèmes abordés ou la voix qui part un petit peu. Vraiment, c'est un chouette voyage musical où tout le groupe, vraiment, on sent l'entente. C'est toujours les mêmes membres depuis le début. Moi, j'ai eu la chance de les voir en concert et c'était vraiment une expérience, un de mes meilleurs concerts de l'année, parce que je les ai vus cette année, en début d'année. Et c'était vraiment un de mes meilleurs concerts. J'ai eu la chance de les voir au Café de la Danse, qui est en plus une toute petite salle. Donc, c'est encore des conditions qui ajoutent vraiment à l'expérience. Donc, si vous avez vraiment la chance de les croiser, comme ils sont pas très, très, très connus en France, les prix sont vraiment accessibles en termes de places de concert, et vous passerez un moment vraiment magique avec un groupe très sympathique et des chansons magnifiques. Donc vraiment, c'est mon coup de cœur de l'année, même si je les connaissais depuis quelques années déjà. Allez-y, et ils sont encore une fois extrêmement sympathiques, et l'album est surprenant, mais dans le bon sens.
Très bien. Donc c'est, je rappelle le nom du groupe, qui est Born Ruffians. De toute façon, encore une fois, il y aura tout ça dans les notes de l'émission. Merci Marion. et Guillaume, enfin, pour la dernière recommandation, le dernier positron de cet épisode.
Alors, je voudrais vous parler de la série Black Mirror. C'est une série britannique, même anglaise, il me semble. Alors, c'est une série qui est plutôt inhabituelle parce que c'est une série d'anthologie. Chaque histoire et chaque casting sont est indépendant. Le titre de la série Black Mirror fait référence aux écrans, en fait. C'est les écrans d'ordinateur, de téléphone et de télévision. La meilleure catchline que j'avais trouvée pour décrire la série, c'était de dire si la technologie était une drogue, alors quels en seraient les effets secondaires ? Et c'est vrai que cette série-là aborde la technologie sous un effet assez pervers. C'est une série qui mêle plaisir et malaise, parce qu'on... Ça aborde tout ce que la technologie peut apporter de bon et peut apporter de mauvais. Elle traite du progrès en matière de technologie et donc ses conséquences en matière de relations sociales. Alors pour prendre par exemple, alors faut savoir qu'il y a eu 2 saisons jusque-là. La première saison a eu 3 épisodes, la seconde 3 épisodes plus un épisode spécial de Noël comme souvent les Anglais font. Pour vous décrire. Comme c'est une anthologie, je peux pas donner un pitch général, même si je l'ai déjà fait un petit peu, mais il y a des histoires très différentes d'un épisode à un autre. Donc, par exemple, il y a un épisode dans lequel les gens ont un implant qui leur permet de rejouer tout ce qu'ils ont vu ou entendu depuis leur naissance. Et donc, c'est mis en scène, et au début, c'est enthousiasmant, et puis, plus on avance dans l'épisode, plus on se rend compte de ce que ça peut engendrer comme effet néfaste. Il y a un autre épisode où on est dans un monde où les gens doivent faire du vélo d'intérieur pour recevoir en retour une monnaie qui porte le nom de mérite. Plus on a de mérite, alors et plus on améliore son cadre de vie. Et la finalité, c'est que plus on a de mérite, et plus on va pouvoir acheter des auditions pour participer à des émissions de télé-réalité, dont se délecte l'élite sociale devant sa télévision. C'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer, un peu à la Hunger Games, que l'élite sociale, les plus riches, sont devant leur télévision et regardent les plus pauvres pédaler, se faire de l'argent, et puis accéder à des castings pour des émissions de télé-réalité. C'est malsain dès le départ sur cet épisode-là, mais voilà, ça dénote assez bien ce que contient la série. Un troisième exemple, c'est une jeune femme qui perd son petit ami dont elle est enceinte, mais elle obtient l'accès à un logiciel qui est encore en version bêta, et ce logiciel est capable de scanner toute l'activité internet de son compagnon jusqu'à sa mort. Et l'intelligence artificielle qui en résulte se révèle en quelque sorte capable de passer le test de Turing, donc c'est vraiment une intelligence artificielle très poussée, et la jeune femme redémarre une relation avec la mémoire de son petit ami par email. Donc au début, encore une fois, c'est très enthousiasmant, parce qu'on a cette sensation que la technologie peut faire des miracles, et plus on avance dans l'épisode, plus on se dit « Oh là là, mais dans quel monde on vivrait ?» Ouais. C'est terrible. Donc sans spoiler trop, je peux vous dire que c'est une série décrite souvent comme apocalyptique ou dystopique, c'est en opposition à tout ce qui est utopie. C'est vraiment il y a un côté un petit peu
C'est clairement dystopique, cette série. C'est voilà. Hyper. Moi, j'avais vu la première saison et j'avais vraiment pas mal aimé. C'est intéressant comme ça pourrait sombrer dans le facile, en fait. À chaque fois, ça pourrait être, mais voilà, donc la technologie, c'est pourri et la technologie, c'est pas bien pour telle et telle raison et voilà vers là où on va. Et c'est clairement dystopique, mais en fait, non, c'est juste qu'il raconte des histoires et qu'il les raconte très très bien, quoi.
Oui, mais faut imaginer.
Ça va toujours plus loin des clichés, en fait.
Ouais,
voilà,
ouais.
À chaque fois, la conclusion d'un épisode, sans spoiler, c'est vraiment comment ça pourrait tourner le plus mal possible.
Ouais. Mais c'est pas genre, que ça tournera si on continue avec notre technologie horrible, quoi. C'est pas une critique facile de la technologie, c'est juste une exploration science-fictionnesque dystopique de idées qui sont intéressantes, quoi.
Et c'est pas moralisateur, quoi.
Non, pas du tout.
Non, voilà. Ouais. Et on... On n'imagine jamais jusqu'où les scénaristes sont prêts à aller, et on est toujours surpris parce qu'ils sont prêts à aller plus loin que ce qu'on aurait soi-même envisagé. Et donc, pour la petite histoire, l'ironie de cette série, c'est également le fait qu'elle est produite par une filiale d'Endemol. Donc, Endemol, c'est cette société qui fait énormément, enfin qui produit énormément de sociétés, d'émissions de télé-réalité comme Big Brother, Star Academy, Fear Factor. Donc, il y a un côté un petit peu ironique, malsain par rapport à ça également. Alors, certains acteurs sont relativement connus, mais c'est un casting différent à chaque fois, comme je le disais. Mais si on aime les séries et les films anglais, on va petit à petit picorer par-ci par-là et retrouver dans le casting des gens qu'on connaît. Par exemple, ceux qui suivent Penny Dreadful vont retrouver un personnage principal. Dans Doctor Who également, il y a des personnages de secondaires de Harry Potter également qu'on retrouve dans le casting. Et puis pour finir, c'est une série qui a été rachetée par Netflix, qui prévoit d'en faire une troisième saison pour la fin de l'année. Donc ça devrait être pour le mois d'octobre ou le mois de novembre. Et si on veut donc se procurer les deux premières saisons, il y a un coffret qui rassemble les deux premières saisons, qui existe, qui est dispo sur Amazon France. Alors c'est en import, mais c'est pas très cher, c'est une vingtaine d'euros. Et on a comme ça la totalité des deux premières saisons, y compris l'épisode spécial de Noël.
Magnifique, et effectivement, moi, de ce que j'avais vu, c'est plutôt sympa et ça vaut le coup, quoi. Donc je recommande également. C'est pour tous, pour le coup, là, effectivement.
Oui, là, je pense que c'est pour tous, oui. Oui.
Tout à fait. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Guillaume. On a donc recommandé aujourd'hui Overwatch, un jeu vidéo pour tous. Ruff, un album des Born Ruffians pour tous. Et Black Mirror, une série télé pour tous. C'est vraiment, décidément, pour tous, tout all around. Pour faire pour utiliser un mot anglais. Et oui, effectivement, Black Mirror, bon, je vais juste préciser avant de conclure. C'est la qualité d'écriture qu'on retrouve sur la télé anglaise qu'on retrouve généralement pas de la même manière ailleurs. Il y a des qualités dans la télé américaine. Il y a, je trouve, pas énormément de qualités ou des qualités gâchées dans la télé française. Mais les qualités de la télé anglaise, c'est vraiment dans l'écriture et dans le fait de faire des trucs assez incroyables avec relativement peu de moyens. Donc, ouais, moi, je plus sois tout à fait cette recommandation.
Il y a une notion de, pour aller dans ton sens, c'est on cherche pas le sensationnel. Même dans la série que j'avais présentée la semaine dernière, comme c'est une série anglaise, on va pas chercher à faire des explosions dans tous les sens. Ça va être plus fin et plus poussé que ça et plus subtil. Et c'est pareil dans Black Mirror, on cherche pas le sensationnel, on cherche à avoir une réflexion sur les différentes thématiques abordées.
Je suis complètement d'accord avec ça, oui.
Tout à fait, ouais. Donc voilà, donc à regarder très certainement. Bon, bah c'est la fin de cet épisode. Guillaume, tiens, peux-tu nous dire où on peut te retrouver sur Internet ?
On peut me retrouver sur Twitter avec le pseudo Statosphère. Voilà.
D'accord, c'était un peu dur de se souvenir de son pseudo Twitter, je comprends. Il est encore tôt, hein, on est fatigué, tout ça, normal. Marion, tiens, est-ce que t'es fatigué, toi? Est-ce que tu vas réussir à te souvenir de ton pseudo Twitter?
Attends. Oui, il me semble que c'est Aizea Design.
Très bien, pourtant c'est pas le plus facile. Hein.
Et vous pouvez également me retrouver sur Nowtech TV et Techscope, l'émission à 8h du matin sur Periscope.
Super, merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter et sur Facebook. Et bien sûr, l'émission est disponible sur frenchspin.fr. Vous y retrouverez aussi d'autres émissions très sympas que je vous recommande. Allez faire un tour sur frenchspin.fr, vous verrez, il y a des trucs plutôt cool. C'est tout pour cet épisode. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le dernier épisode de la session de Positron. Bon, vous inquiétez pas, on finira en beauté. Allez, à dans 2 semaines.
Bye bye.
Bye bye. We'll be right back.
We'll be right back.